Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. J'ai de nouveau le grand plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Louis Lefebvre, celui que l'on appelle affectueusement notre encyclopédie vivante du plein air au Québec. Au cours de précédents épisodes, Louis nous a fait découvrir l'Acropole des Draveurs, ce sentier pédestre fétiche qui ne cesse de ravir autant les passionnés de la randonnée que les débutants. Louis nous a également fait découvrir l'un des parcours les plus mystérieux du Québec, le mythique Sentier des Jésuites. Vous pouvez d'ailleurs réentendre ces entretiens sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio-VM. Ce sont les épisodes 13 et 16. Dans quelques instants, Louis nous parlera de la naissance du plein air au Québec et du rôle prépondérant qu'il a joué dans l'évolution de cette activité qui ne cesse de croître en popularité partout au Québec. Autre belle surprise, notre chroniqueur Michel O'Neill, le serein pèlerin, il nous revient, cette fois pour nous raconter la naissance des sentiers de marche l'hiver au Québec. Mais pour l'instant, retournons dans la belle région de Québec où nous attend Louis Lefebvre dans son petit paradis champêtre de Sainte-Brigitte de Laval. Bonjour Louis et merci d'être au rendez-vous pour un autre de notre série d'entretiens sur le plein air, cette fois portant sur la naissance de la randonnée au Québec. Alors bonjour Louis.
Bonjour Denis.
Louis, vous avez été au cours de votre long parcours de passionné de plein air et de récréologie, à la fois un témoin et un acteur important de ce qui s'est passé dans ce domaine au Québec, notamment en ce qui a trait à la randonnée. Et de nombreuses études démontrent que la marche et la raquette sont depuis quelques années le loisir extérieur le plus populaire au Québec. Mais ça n'a pas toujours été le cas, comme nous allons le constater. Mais avant d'aborder plus directement ce sujet, pouvez-vous nous dire comment la randonnée est entrée dans votre vie et dans votre parcours professionnel?
C'est que ça a commencé pendant que je faisais un stage en récréologie dans la vallée de la Jacques-Cartier, comme gérant des opérations. Avant cette période-là, pendant une dizaine d'années, je n'étais qu'un cycliste et un skieur de fond. J'avais passé tous les grades d'initiateur en cyclotourisme, de moniteur, d'instructeur, également pour le ski de fond. Et dans les trois années précédentes, j'avais été même le premier moniteur de ski de fond payé dans un centre de ski qui était le Camp Mercier.
Ah oui.
Après avoir assisté à son inauguration le 5 décembre 1970, parce que j'accompagnais le président du club de ski de fond du Mont-Saint-Anne, deux ans plus tard, j'ai proposé, donc ça vous prendrait un moniteur de ski de fond, puis je venais de passer le grade de niveau moniteur, puis le gérant du Camp Mercier me dit, ben ça fait déjà... deux ans, trois ans depuis la fondation qu'on demande un moniteur parce que nous autres, on connaît rien comment manœuvrer des skidoos pour tracer les sentiers. Fait que, après m'avoir dit ça, j'ai dit à qui qu'il faut demander. Fait que j'étais allé au directeur régional du service des parcs à l'édifice de la Faune à Québec. Puis, avec un petit projet de trois pages pour dire, voici ce que je vous propose pour engager un moniteur de ski de fond les fins de semaine parce que j'étais étudiant. Puis sur le même modèle que j'avais utilisé pendant quatre étés comme moniteur de cyclotourisme, avec des randonnées guidées puis tout ça. Mais là, alors, il dit, c'est intéressant. J'ai la demande justement d'Henri Meunier, le gérant du Camp Mercier, qui m'a demandé encore une fois un moniteur, puis j'ai l'offre. Alors, je suis ressorti de là avec une job. Puis pendant les trois hivers suivants, j'étais le moniteur. L'avant-midi... Je montrais aux gens comment farter leur ski, comment s'habiller, quoi apporter comme lunch. C'était vraiment les débuts, là, l'initiation. Puis, j'ai commencé à organiser des randonnées guidées. Je faisais des patrouilles sur les sentiers pour aider les gens quand il y a des petites difficultés dans certaines montées, puis de faire de même. Puis, animé aussi des excursions Camp Mercier, Forêt Montmorency. En améliorant le parcours d'année en année, puis tout ça. Puis là, il est arrivé à un moment donné que, suite à la commission parlementaire sur l'énergie pour Hydro-Québec, qui faisait interdire de construire son fameux barrage dans la vallée de la Jacques-Cartier, le ministère avait décidé, bon, mais maintenant qu'on a sorti l'Hydro-Québec, faut occuper le terrain. Alors, ça va nous prendre un responsable des activités de plein air, canot camping, randonnée pédestre, ski de fond, vélo, puis tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a des gérants de camp de pêche l'été, on a des gérants de camping, mais on n'a pas de gérants de vallée. Qu'est-ce que c'est ça, ces activités-là? C'est pas de la chasse puis de la pêche, là. C'est des affaires de tapettes, là, la randonnée pédestre puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui lui a dit, ben, dit, votre moniteur au Camp Mercier, lui, il fait tout ça, ces affaires de tapettes, là. De randonnée pédestre, de ski de fond, de vélo. Fait qu'on m'appelle pour m'offrir une job de 6 mois, comme gérant de la vallée de la Jacques-Cartier. Ah, j'ai dit, vous tombez juste à point parce que moi, après 4 étés comme instructeur de cyclotourisme puis au ministère des Transports puis tout ça là, pour la sécurité routière à bicyclette, tout me destinait à faire un stage à Vélo Québec de 6 mois en entreprise dans le cours de mes études à Trois-Rivières. Mais là, je trouvais que ma carrière commençait à prendre une tournure un peu trop basic à pédale. Mm-hmm. Alors là, là j'ai dit, hey, parfait, mais moi, c'est un stage de 8 mois. Aucun problème, on t'engage pour 8 mois. Alors là, moi, je me présente au bureau régional, chez Monsieur Grimiard, qui me connaissait déjà comme moniteur de ski de fond Camp Mercier, puis il dit, ah, Louis, qu'est-ce que c'est un matin? Ben, il dit, je viens prendre vos instructions, là. Il dit, comment ça? Ben, il dit, j'étais engagé pour être gérant de la vallée de la Jacques-Cartier. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qu'on a engagé. Ben, dit, c'est parce que justement, on connaît rien là-dedans. On sait pas quoi faire avec cette maudite vallée-là. Alors, ta carte blanche, fais ce que tu veux avec. Fait que là, j'ai recruté une partie de l'équipe expérimentale qui était là depuis l'année précédente, qui avait été expérimentée pour l'aménagement de premiers sentiers. Puis, j'ai complété en formant une équipe avec un spécialiste du canot, un spécialiste de la randonnée à pied, l'escalade. Puis, on a commencé à aménager les premiers sentiers, à nettoyer les portages, installer de la signalisation, puis à structurer les activités de plein air dans la vallée.
Donc, ce premier contrat comme gérant des opérations en 75, ça a été le moment charnière dans votre vie, dans votre carrière.
Oui, parce que moi, je connaissais à peu près la moitié de ces activités de plein air-là. Oui. Moi, j'avais jamais fait de randonnée pédestre ni de canot. Par contre, le ski de fond puis l'aménagement de sentiers de ski de fond, oui. Puis, faut dire que à cette époque-là, les parcs, il y avait 4 parcs au Québec seulement.
Lesquels?
Le Mont-Tremblant et le parc des Laurentides, créé en 1895. Le Mont-Ferd en 1936 et le parc de la Gaspésie en 1938. Mais les seules activités qui étaient pratiquées, c'était la chasse et la pêche. Personne connaissait les autres activités de plein air. Mm-hmm. Fait qu'on partait à zéro. Puis, on n'était pas nécessairement les bienvenus. Hein? Les employés du parc, non. Ils trouvaient qu'on allait gruger leur budget destiné à la pêche, puis à la chasse, puis... puis on nous refournissait toujours les véhicules les plus maganés là.
On vous le faisait sentir un peu.
Ah oui. À un moment donné, il y a un contremaître général du parc des Laurentides qui nous trouvait plus un embarras que d'autres choses, qui disait, moi, il dit, ce que je regrette, c'est qu'Hydro-Québec a pas pu faire son barrage dans cette vallée-là. Puis il y en a un autre qui renchérit, dit, oui, puis du temps qu'en noyer cette vallée-là, on aurait pu vous attacher avec une chaîne au fond du réservoir. Puis là, il y en a un troisième qui dit, ouais, puis tant qu'à ça, on aurait pu aussi construire un canal pour aller noyer le Camp Mercier puis avoir la grosse paix. Fait que... Mais il se doutait pas qu'un jour, ces activités-là allaient, pour ainsi dire, être le fer de lance du développement de la récréation de plein air dans les parcs du Québec. Là.
Tout à fait. Et après ce contrat, vous êtes quand même retourné un peu vers le vélo. Là.
Quand j'ai eu terminé mon stage, c'est-à-dire j'avais pas complètement terminé, après les 6 mois que j'étais prévu pour travailler dans la vallée de la Jacques-Cartier, on cesse les opérations, mais moi, il me restait encore 2 mois à faire de stage. Alors, on m'a rapatrié au Vieux-Moulin, l'administration du parc. Et là, on m'a demandé, coudonc, on a des demandes pour faire du canot camping sur la rivière Métabetchouan. Ah, on a aussi une demande pour aller faire de l'escalade à Saint-Urbain. Alors là, moi, j'ai commencé à structurer les premiers dossiers de plein air du parc des Laurentides. Ils savaient pas quoi faire avec ça. Puis là, j'ai dit, écoutons, ça vous prendrait un récréologue. Et tu sais quoi, c'est un récréologue? C'est mon stage, c'est là-dedans que j'étudie. Ah oui? Dis, qu'est-ce que tu ferais? Études de potentiel récréatif, développement des activités. Il dit, marque-moi donc ça sur un bout de papier. Alors moi, je suis allé chercher un formulaire de description d'emploi. Et tout en rédigeant mon rapport de stage dans les 2 derniers mois, j'ai fait la description de la job de rêve pour un responsable des activités de plein air dans le parc des Laurentides. Quand j'ai donné ça à mon patron, il dit « Ah, c'est intéressant. » Lui, il a mis ça dans ma chaîne. Et je savais pas que 2 ans plus tard, quand j'allais être engagé comme permanent responsable des activités de plein air, on allait me donner comme description de tâche textuellement la description d'emploi que j'avais fait 2 ans auparavant. Mais quand mes études ont été terminées puis que le parc des Laurentides n'avait pas encore procédé à l'embauche, mon option A de stage en récréation, finalement, je suis devenu directeur technique de Vélo Québec. Et là, c'était de faire... Et on me demandait surtout de faire une présence humaine auprès des moniteurs que j'avais formé un peu partout au Québec, à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, à Valleyfield, à Ottawa, à Baie-Comeau, en Gaspésie, tout ça. Et d'assurer une présence humaine auprès des membres, c'était de faire le tour pendant tout l'été de mes chums que j'avais formé un peu partout à la grandeur pendant 4 étés de temps. Et entre-temps, le concours s'est ouvert pour responsable de... Après mon premier été, fait que j'ai pas renouvelé mon emploi à Vélo Québec parce qu'on m'avait appelé, dit Louis, tu lis pas les journaux, il dit non pas ben c'est parce que là ils viennent d'ouvrir un concours là, ils disent dépêche-toi d'envoyer ton curriculum vitae là. Puis alors là j'ai passé le concours, puis c'est là que j'ai reçu la fameuse tâche, la description de tâche que. Et là pendant 1 an et demi j'ai commencé à faire le tour du parc des Laurentides. Pour inventorier tout le potentiel récréatif. Il y avait un formidable réseau de sentiers, de randonnées, de découvertes avec les sentiers de garde-feu, avec 16 tours de garde-feu qui étaient autant de sur les plus hautes montagnes du parc, donc les plus beaux points de vue. Il y avait un réseau de 244 refuges, là, de camps de garde-feu qui pouvaient devenir des refuges de randonnées. Puis on me demandait... les autorités centrales demandaient est-ce que je sois uniquement attaché à la vallée de la Jacques-Cartier. 7 ans avant la création du parc de la Jacques-Cartier, mais au régional, ils voulaient que je m'occupe du plein air dans tous les parcs et réserves de la région. Fait que finalement, ils ont fait un peu un moitié-moitié. Et c'est comme ça que ma carrière. Puis moi, j'avais déjà à Montréal, au 14-15 Jarry, qui était la centrale des loisirs avant qu'elle soit déménagée au Stade olympique, plus tard, pris contact avec des collègues, mes voisins de bureau, qui étaient la Fédération québécoise de la montagne, la randonnée pédestre ou Marche Québec, Fédération de canot camping. Puis moi, dans le développement des activités de plein air, j'avais pas l'expertise pointue en escalade ni en canot camping. Fait que j'allais chercher les ressources que j'avais été en contact autant dans mon stage dans la vallée de la Jacques-Cartier qu'avec les collègues des fédérations de plein air à Montréal pour constituer une expertise là, dans le domaine de la récréation de plein air. Là.
Et comment les parcs du Québec sont-ils nés et quelle place y faisait-on justement à l'époque aux activités de plein air?
Il faut dire que Lorsque j'ai pris contact pour la première fois à la randonnée pédestre, parce que j'étais un gars de bicycle puis de ski de fond, la plupart des Québécois qui voulaient faire de la marche allaient aux États-Unis, dans les Appalaches, au Mont Washington, au Mont Katahdin. Il y avait presque pas de sentier au Québec. Moi, je me rappelle, là, le gaz coûtait pas cher, c'était presque donné. Le dollar canadien valait 1,05 américain, alors qu'aujourd'hui, il vaut 80 cents. Alors là, non seulement on allait faire de la randonnée, puis non, la gang de Québec, là, on rencontrait dans les sentiers du Mont Washington des Montréalais. Puis on se croisait, puis hi, hi, tout d'un coup, on se rendait compte qu'on parlait tout français, tu sais, mais pas tout le temps, il y avait quelques Américains aussi. Puis tout notre matériel de plein air, les sacs de couchage, mes premières bottes de randonnée, mon premier petit poil...
Coleman
on achetait ça aux États-Unis, jusqu'à ce que le magasin de la Cordée à Montréal, qui était pour le matériel pour les scouts, puis qui avait commencé à tenir du matériel pour l'escalade, d'où le nom Cordé, là. Les autres amis qui suivaient, au lieu d'acheter notre matériel aux États-Unis, on l'achetait maintenant à Montréal. Puis là, à un moment donné, il y a des boutiques qui ont commencé à s'ouvrir à Québec, les sacs à dos, les bottes de randonnée aussi. Tous ceux qui allaient suivre derrière moi ou derrière mes amis, ben là, on n'avait plus besoin d'aller aux États-Unis pour s'approvisionner. Puis, après la loi de 1977...
Qui était?
La loi sur les parcs, où là, les quatre parcs nationaux existants étaient reconnus selon des critères internationaux. Parce qu'avant, les parcs étaient plus des... On était loin du concept de parc comme à Yellowstone aux États-Unis en 1872 ou encore le parc de Banff puis des montagnes rocheuses.
Dans l'Ouest.
C'était plus des réserves forestières vouées à la chasse et à la pêche. Mais là, en 77, la loi interdisait la chasse, interdisait toute exploitation industrielle des ressources, forêts, mines, hydroélectricité. Tout ça à cause de la fameuse bataille de la Jacques-Cartier, où là, on s'était dit, maintenant, les parcs... Et là, on s'est mis à créer un réseau de parcs qui sont un peu devenus le fer de lance du développement des activités de plein air au Québec. C'était même écrit dans la politique sur les parcs que les parcs nationaux du Québec seraient la prédominance ou l'offre préférentielle en matière de récréation de plein air au Québec.
Ah, déjà en 77.
Oui. Puis en 81. Fait que, et c'est comme ça que le développement des activités de plein air a commencé par les parcs nationaux, parce qu'on avait les ressources pour le faire. De plus en plus, au détriment des activités de chasse et de pêche, mais qui en a pas tellement pâti pour autant, là. Puis par la suite, exemple, le ski de fond. C'est là qu'on a vu surgir un peu partout, à l'image du camp Mercier, pratiquement tous les terrains de golf avaient leur réseau de sentiers de ski de fond. Là, c'est là qu'on s'est mis à aménager des sentiers. Ben le tourisme, chasse et pêche, la chute d'Orwin à Rawdon, ou encore la chute Saint-Ursule, la chute Lisander sur la baie Quincault. Le tourisme chasse et pêche développait des haltes routières avec des petits sentiers de découverte, là, tu sais, de la promenade. Mais pour aller faire de la longue randonnée à pied pour plusieurs jours, il n'y avait que l'offre des parcs du Québec. Mais aussi, lorsqu'on a commencé en 1981, la création du parc de la Jacques-Cartier, mais aussi des grands jardins, on s'est retrouvé à incorporer le massif là, du mont du lac des Cygnes, où là, il y avait un ancien garde-feu, bûcheron, draveur, qui s'appelait Eudore Fortin, qui avait commencé à développer des sentiers de randonnée pédestre avec la Fédération québécoise de la montagne, parce que d'abord, ces sentiers-là servaient d'accès aux parois d'escalade. Et là... on se retrouvait à hériter de la gestion de ce territoire-là, à récupérer le refuge d'Eudore Fortin. Puis là, avec Eudore, on a commencé à développer un réseau de randonnées pédestres dans les montagnes de Charlevoix. Et ce qui est un peu la naissance plus tard du fameux sentier, là, on peut dire presque de réputation internationale, là, de la traversée de Charlevoix, là, en randonnée à pied, en randonnée à ski. Même qu'à un moment donné, dans les tout débuts de la traversée de Charlevoix, moi qui fréquentais déjà un peu ces montagnes-là avec des amis en canot sur la rivière Malbaie, en marche dans le Mont des Érables, puis la fameuse Acropole des Draveurs, puis tout ça, là, la Fédération de montagne, il dit, Louis, il dit, as-tu fait la traversée de Charlevoix? Ben, j'ai dit, pas au complet, des petits bouts ici et là. Ben, il dit, là, on voudrait t'engager comme moniteur, guide moniteur pour guider un groupe. On offre des forfaits avec la randonnée de luxe, là. Eudor amène les bagages puis la nourriture d'un refuge à l'autre, puis ça nous prendrait un guide pour puis là ben on aimerait ça que tu fasses la traversée au complet puis que tu nous donnes tes observations avec l'expérience que t'as pris dans la Jacques-Cartier puis dans Gaspésie puis au Mont-Tremblant. Alors, j'ai pris une semaine de vacances, il me payait 300$ pour la semaine. Pour
à l'époque,
aller
c'était bien.
Puis c'est comme ça que moi et Eudor, on s'est mis à travailler ensemble. Puis, et il y a eu comme un genre de retour d'ascenseur 20 ans plus tard, lorsqu'on a travaillé au sentier de l'Acropole des Draveurs.
Là, oh, puis, oui, la roue qui tourne.
Oui, c'est ça.
Lorsque vous parlez des années 70, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que... Il y a eu une espèce de renouveau dans la société, le retour vers la nature, l'alimentation.
Oui. C'était la période granola.
Granola. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Est-ce qu'il y a un lien à faire?
Les mangeux de potes puis les fumeux de graines, là. ou l'inverse, les fumeux de potes puis les mangeux de graines, là. Puis les cheveux longs, on avait toute une barbe, là. Puis c'était le retour à la nature, là, comme Richard Séguin puis sa sœur, là, en campagne puis tout ça. Puis il y avait le phénomène des communes.
Oui.
Tout le monde partait en campagne, se trouvait des fermes, puis vivait en commune. Puis moi, j'avais de mes employés qui travaillaient à l'aménagement des parois d'escalade ou des sentiers de randonnée pédestre dans la vallée de la Jacques-Cartier, qui avaient quitté Montréal pour aller s'installer sur des fermes en montagne là, à Saint-Urbain. D'ailleurs, moi, je devais souvent, au moins une fois par semaine, passer à l'administration du parc des Laurentides au Vieux-Moulin, où là, je rencontrais mes vieux gérants de camp de pêche, puis qui avec qui j'avais travaillé. Ils avaient tous l'âge de mon père ou un peu plus vieux.
Oui.
À la cafétéria du Vieux-Moulin. Puis là, moi, mes Montréalais devenus charlevoisiens disaient, « Aïe, Louis, on a trouvé des vieilles fermes à l'abandon, pratiquement à l'abandon. » Hey, le bargain, on a payé ça 5 000$ avec une magnifique vue sur les montagnes, on voit aller grimper puis tout. Et là, j'entendais l'envers de la médaille où mes travailleurs forestiers au Vieux-Moulin disaient, ils disent, nous autres, ils disent, on a tel voisin, là, lui, ça fait des années qu'il essayait de vendre sa terre. Puis là, il a réussi à vendre ça 5 000$, toi, imagine-toi, il y a la fortune qu'il a eu. Puis les autres, c'était un bargain. Puis sur moi, je disais pas un mot, tu sais, tout le monde était content. Mais c'était l'époque un petit peu granola, là, de retour à la nature. Puis nous, les employés, dans le fond de la vallée de la Jacques-Cartier, au camp 3, qui est un ancien camp de draveurs, là, qu'on avait rafistolé pour s'héberger, là, ben, on s'enorgueillissait d'être la première commune gouvernementale.
Payé pour le faire.
Ben, on travaillait à l'aménagement des sentiers pendant la semaine. Puis la fin de semaine, on faisait l'animation d'initiation au canot, d'initiation à l'escalade, des randonnées guidées à pied, des randonnées pédestres. Puis pendant que la semaine, on faisait les aménagements, on construisait des sentiers, puis ces choses-là. Puis par la suite, ben avec la nouvelle politique, moi, en 95, j'ai commencé à réviser la politique sur les activités et services dans les parcs. On avait 3 cahiers principaux, là, la conservation, l'éducation et la récréation. Et de là, cette nouvelle approche... qu'on a appelé l'approche récréo-éducative, c'est que dorénavant, les activités de plein air dans les parcs ne serviraient plus à faire de la performance sportive, mais plutôt de support à la découverte des paysages. L'éducation au milieu naturel.
C'est toute une transformation.
Oui, donc, on éliminait toutes les compétitions sportives qui pouvaient se tenir dans les parcs, toutes les activités motorisées, comme la motoneige, les VTT qui commençaient à se pointer du nez, puis si on laissait ça aux réserves fauniques pour que les parcs aient une approche plus de conservation, puis que la nouvelle version de la politique sur les activités et services, là, qui d'ailleurs a été traduite en trois langues, en français, en anglais et en espagnol, parce qu'on allait la présenter lors d'un congrès international sur le tourisme qui s'est tenu à Québec, où on rassemblait pas loin de 1100 participants et une centaine de pays. Et le ministère du Loisir, Chasse et Pêche présentait sa politique là, récréo-éducative sur les activités et services dans les parcs du Québec. Et non plus, j'ai failli dire les parcs-réserves. Non, là, on commençait à séparer les deux réseaux. Là. La chasse et la pêche d'un bord, puis la découverte des paysages, puis l'éducation naturelle dans les parcs.
C'était une vie, une profession excitante pour vous.
Ah oui, ben c'était une perpétuel changement.
Oui.
Puis
c'est l'évolution qui est intéressante des années 60-70 jusqu'à aujourd'hui.
Oui, parce que quand, à un moment donné, on me demande quel est votre... du chemin parcouru, tu sais, je regarde par en arrière, puis je me rends compte comment, au tout début, il fallait se battre contre certains patrons, mais avec l'accord des autorités supérieures qui comprenaient peut-être un peu mieux les enjeux que nos patrons immédiats, qui eux autres étaient le nez dans les opérations, puis il fallait que ça fonctionne. Puis ce qui fonctionnait bien à cette époque-là, c'était la chasse et la pêche, puis nous, on était un peu les empêcheurs de tourner en rond. Mais on a réussi finalement à faire notre place, puis à développer, puis à installer les activités de randonnée, que ce soit à pied, en canot, en vélo, en ski, parce qu'à un moment donné, il y a eu le développement des pistes cyclables. Moi, j'ai rêvé longtemps de transformer le chemin forestier de la vallée de la Jacques-Cartier en piste cyclable.
Parce que vous étiez un grand cycliste avant
puis
carrière.
C'est une des belles façons de découvrir.
Oui.
Mais vous avez les pistes cyclables au Mont-Orford, puis ils sont souvent interconnectés avec les grands.
Tout à fait.
Un des dossiers que j'ai eu à traiter comme responsable des activités de plein air à la direction centrale des parcs, ben, à un moment donné, c'était d'amener du support au développement des activités de plein air à la grandeur du Québec. Et j'ai eu pendant 2 ans le dossier des voies ferrées désaffectées.
Qu'on
devait réutiliser soit pour des conduites des pipelines, là, toutes sortes d'utilités publiques, et aussi pour des pistes cyclables. Et j'avais créé une grille d'analyse sur les populations traversées, la sinuosité des voies ferrées, la qualité du paysage montagneux, la proximité des plans d'eau, tout ça. Grille qui a été distribuée dans nos bureaux régionaux, où là, mes homologues responsables de la récréation de plein air devaient faire l'évaluation régionale de du réseau de voies ferrées qui était abandonné. À tel point qu'à un moment donné, il y avait des pistes cyclables dans la région des Cantons de l'Est là qui présentaient plus ou moins d'intérêt.
Oui.
Mais mon boss, il dit, Louis, il dit, casse-toi pas la tête, ils vont tous y passer. L'engouement des pistes cyclables, le petit train du Nord.
C'est vrai, tout à fait. Je pensais justement à celle-là.
Le petit train du Nord, les 75 premiers kilomètres pouvaient... Parce que là, je dis, faire du ski de fond, c'est une ancienne voie ferrée, là, c'est plutôt plate. Mais il y avait tellement de centres de ski puis de petites communautés tout le long qui tenaient à ce que le petit train du Nord soit transformé en piste de ski de fond. C'était déjà une piste cyclable sur toute sa longueur jusqu'à Mont-Laurier. Mais l'autre partie, les 125 kilomètres, les 75 premiers kilomètres, on pouvait penser que ça pouvait servir d'artère centrale pour tout un réseau de sentiers qui relierait les auberges, les petits centres de ski de fond, puis tout ça. Mais les derniers 125 kilomètres, ben ça, on a dit, allez-y la motoneige, là. Tu sais, c'est des grandes sections plutôt longues et fastueuses, là, tu sais. T'as besoin d'aller plus qu'à 15 km heure, là, envoie une clanche à 70, 80, là, vas-y. D'ailleurs, il y avait une piste cyclable, là, qui allait aussi vers Pointe-Négamouk, là, dans les Appalaches, là. Puis, Quand à un moment donné, avec une copine, on avait été faire le petit train du Nord. Mm-hmm. Puis je disais que dépasser Saint-Jovite, Mont-Tremblant, là, il y a une certaine monotonie qui s'installe dans le paysage, là. Puis que on pouvait bien laisser ça au VTT, là. Ben pas pour le petit train du Nord, mais plutôt dans dans les Appalaches, là. Elle avait trouvé l'expression rigolote un peu, une certaine monotonie, parce que c'était des grandes lignes droites en pleine forêt. Mais la première section, plus sinueuse, ben là, oui, d'accord, plus cyclable, c'était parfait.
Je vous écoute parler, et c'est comme si vous aviez réussi à marier toutes vos passions, le cyclisme, la marche, la randonnée.
Le canot.
Depuis le tout début, c'est formidable. J'allais dire que de chemin parcouru, et étant donné le progrès qui a été fait au fil des décennies, comment entrevoyez-vous l'avenir de la randonnée au Québec?
Pour moi, l'avenir de la randonnée, ça fait partie un petit peu du développement du loisir au Québec. Et je vais peut-être dire un sacrilège, mais il y a un professeur de sociologie qui était très réputé, Geoffre Dumazodier,
oui,
qui avait un des sociologues français qui a le plus étudié la société québécoise. Il s'intéressait par curiosité au Québec et que j'ai eu comme professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, professeur invité qui venait de temps en temps, et qui avait écrit un livre sur la civilisation du loisir. Et là, il faisait la risée de tout le monde, c'est une utopie, la civilisation du loisir. Ben moi, je vous dirais que depuis 20 ans, on vit dans une civilisation du loisir. Regarde, c'est peut-être pas celle qu'avait imaginée Dumazodier, mais l'économie du loisir est énorme, l'économie touristique.
C'est vrai.
C'est la planche de salut d'énormément de communautés, de villages, de régions au Québec. Ça l'a presque surpassé l'industrie forestière, qui était l'industrie numéro un au Québec. Puis toute l'industrie touristique, regardez les drames qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie, puis qu'on se dit comment se fait là que les restaurants, le tourisme, mais non, on... Ouais. Tous les centres de plein air qui ont surgi, où les parcs ont servi un petit peu de modèle de développement avec la CEPAC plus tard et tout ça, on est dans une civilisation du loisir où les activités de plein air, de ressourcement, c'est un peu l'avenir que je vois, moi, dans une... Puis, voyez que le travail n'occupe plus nécessairement toujours la place prédominante. La qualité de vie l'emporte beaucoup, puis réduction des heures de travail, le travail à temps plus ou moins complet, des horaires fractionnés, concentrés. Bon, là, je suis en train de jouer au petit récréologue. Là.
Mais c'est tout à fait ça. Quelle belle façon de terminer notre entretien aujourd'hui. Louis, merci beaucoup de nous avoir parlé de vos passions.
Oui.
La randonnée qui a un bel avenir au Québec.
Oui.
Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir ou de vous entendre.
Parfait.
De nouveau.
Très bien.
À marcher vers le bien-être.
Parfait. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci. Bonjour. Alors bonjour Michel, cher serein pèlerin, et bienvenue à nouveau à l'émission.
Bien, bonjour Denis, et enchanté de vous retrouver ainsi que vos auditrices et vos auditeurs.
Alors aujourd'hui, dans la foulée de notre entretien avec Louis Lefebvre sur la naissance de la randonnée, vous nous parlez d'une autre naissance, celle des sentiers de marche l'hiver au Québec.
Oui, en effet, Denis, aujourd'hui, comme vous le savez, un peu partout au Québec, on retrouve de magnifiques pistes ou sentiers entretenus soit par des municipalités ou par des OBNL ou encore par des centres privés qui nous permettent non seulement de faire de la raquette, mais aussi simplement de marcher en hiver. Puis c'est quand même un phénomène assez récent parce que ça n'a vraiment pas toujours été comme ça. C'est peut-être un peu l'histoire de cette évolution-là que j'aimerais, dont on parle dans la chronique d'aujourd'hui.
Alors, vous faites bien de nous le rappeler, Michel, ça n'a pas toujours été si facile si l'on souhaitait marcher l'hiver.
Non, puis si on regarde, en fait, marcher en ville et marcher en milieu naturel, marcher en ville, bien, on le sait, vous êtes un grand marcheur en ville et moi aussi, on est toujours confronté aux trottoirs mal déblayés ou non déblayés ou glacés, à des bancs de neige laissés par les grattes qu'il faut sauter par-dessus,
oui.
Bien sûr, l'hiver au froid. Et le fait que si on essaye de marcher dans les rues parce que les trottoirs ne sont pas bien déblayés, c'est dangereux. Donc, on est vraiment dans un contexte où marcher l'hiver en ville est vraiment pas très facile.
Et marcher à la campagne, pas du tout facile non plus.
Non, en effet, comme vous savez, pendant des années, avant un peu le renouveau des raquettes dont on parlera peut-être un peu, marcher dehors l'hiver à la campagne, c'était soit marcher dans la neige folle en raquette, puis dans ce temps-là, en raquette en babiche, sans bâton.
Oui.
Et puis, vous savez comme moi que marcher dans la neige folle, c'est pas facile. Là. C'est vraiment très... si on tombe, c'est encore moins facile de se relever. Si on marche pas dans la neige folle, on a le choix de marcher sur des rangs ou des pistes de motoneige où on n'est pas très bienvenu et où ça circule vite et où c'est dangereux. Donc, marcher l'hiver, en général, à venir jusqu'il y a quelques années, c'était pas un cadeau.
Et Michel, si je me souviens bien, vous avez vécu une expérience de camping d'hiver chez les Inuits de la Côte-Nord qui vous a, je pourrais dire, ouvert les yeux sur bien des choses.
Oui, en fait, j'ai eu la chance, vers la fin des années 60, d'aller passer environ une semaine dans une famille d'Inuits qui accueillait des campeurs du Sud comme nous là, par rapport à ça. Et une des choses qui m'a le plus étonné dans cette expérience-là, sur laquelle on pourrait discuter longtemps, c'est que après une nouvelle neige après avoir marché peut-être deux ou trois fois en raquette, on pouvait après ça marcher à pied facilement, sans raquette, et ça devenait extrêmement dur et bien tapé. Donc, ça m'a fait réaliser qu'on peut facilement marcher l'hiver à pied sans raquette quand on... Un endroit est bien fréquenté. Et puis, ça m'a ouvert les yeux sur ce dont on va parler maintenant, là, un peu plus tard, les sentiers d'hiver, là, où on marche maintenant sans raquette sur des endroits bien tapés.
Donc, l'idée de tracer et d'entretenir des sentiers pour faciliter justement la marche autant en hiver qu'en été est donc venue à point nommé au moment où l'idée de marcher pour la forme ou le plaisir est devenue populaire dans les années quoi, 70, 80 et même aujourd'hui.
Oui, bien comme vous en avez discuté avec notre ami Louis Lefebvre tout à l'heure, la randonnée a commencé à être populaire quand même il n'y a pas si longtemps que ça, là, années 70, 80, 90. Et puis, comme pour les débuts de la randonnée justement décrite par Louis, ça n'a pas été si simple que ça, là, démarrer de nouveaux sentiers de randonnée. Louis nous rappelait là, qu'il avait rencontré une grande résistance là, où... les gens trouvaient que ce genre de sport n'était pas de la chasse et de la pêche, c'était des affaires de tapette, là, comme ils disaient. Donc, on a un peu rencontré les mêmes problèmes quand on a voulu démarrer les sentiers de marche l'hiver.
Et donc, un des premiers endroits au Québec où des sentiers d'hiver aménagés ont été organisés, c'est dans le parc fédéral du Cap-Tourmente, près de Québec, près de chez vous, Michel. Parlez-nous un peu de comment c'est né.
Oui, effectivement, Michel Hamelin, que vous avez reçu à votre émission il y a quelque temps, a été un des instigateurs de cette idée, début des années 90, de donner accès notamment à la Réserve fédérale de conservation du Cap-Tourmente, parce qu'il était un ornithologue et que la réserve était à ce moment-là très peu accessible au grand public parce que c'était une réserve de conservation pour les oies blanches. Alors, ils ont développé l'Association des Amis du Cap Tourmente, 7-8 personnes, ornithologues, bénévoles, biologistes de la faune. Et puis, on finit par être capable de convaincre les autorités de la réserve en 92 de les laisser installer un sentier d'hiver, notamment, avec 16 postes d'alimentation pour les oiseaux sur 10 kilomètres, qui ont été entretenus par des bénévoles pendant 2 ans au départ, qui tapaient en raquette en traînant les graines à moineaux dans leur sac à dos. Cette espèce de ce réseau de sentiers d'hiver qui, à ce moment-là, a instantanément gagné une très, très grande popularité parce que, comme on se disait tantôt, marcher l'hiver, c'était pas simple, ni en ville, ni à la campagne. Et là, on avait un endroit qui était vraiment bien tapé, où on était capable de marcher à pied parce qu'à force de passer avec les raquettes, ça allait bien. Tellement un grand succès qu'en 1995, finalement, la réserve décide de prendre en charge l'entretien des sentiers, l'entretien des mangeoires. Et puis, depuis ce temps-là, c'est un winner, si on peut dire. Ça continue avec grand succès. Et ça a fait tache d'huile parce qu'il y a, à Québec et ailleurs, d'innombrables parcours, même simplement pour marcher, sans nécessairement de raquettes, qui sont nés un peu dans la foulée de ces premières initiatives.
Ah, très intéressant. Et Michel, vous avez été personnellement impliqué dans la mise sur pied d'un sentier d'hiver dans la ville de Lévis, justement. Et ça, c'est du temps où vous y habitiez, je crois. Parlez-nous de ce projet.
Oui, effectivement, j'ai habité Lévis une trentaine d'années. Et puis, au printemps 2002, à Lévis, il y a eu l'inauguration, après 2-3 ans d'aménagement, d'une extraordinaire piste multifonctionnelle sur une ancienne emprise de chemin de fer de long du fleuve qui s'appelle le Parcours des Anses. Ça a une 20aine de kilomètres, en fait, et c'est vraiment la plus belle piste au Québec en termes de piste multifonctionnelle avec des vues imprenables sur la capitale, des petites plages, etc. Donc, vraiment un parcours exceptionnel. Ça, c'était au printemps 2002. Quand l'automne est arrivé, il y a plusieurs personnes, des cyclistes en fait, pas des cyclistes, c'est-à-dire des skieurs de fond, dont j'étais, qui ont demandé à la municipalité, bien là, on a une belle piste multifonctionnelle, l'hiver, vous devriez l'entretenir, qu'on puisse faire du ski de fond. En fait, c'est tellement extraordinaire. Vous avez deux autres centres de ski de fond à Lévis. Vous devriez vraiment rendre ça accessible l'hiver aussi. Et la réponse de la municipalité, ça a été non. non, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on craignait que la machinerie utilisée pour éventuellement damer la piste brise l'emprise qui était en asphalte en dessous.
Ah oui.
On pensait que les pointes de bâton des skieurs pour éventuellement briser l'asphalte. Et on disait aussi, c'est sur le bord de l'eau, donc il va y avoir du grand vent tout le temps, puis ça va être très, très difficile de maintenir pour le ski de fond ce genre de piste. Donc, ensuite de ça, suite à ce refus-là, à l'hiver 2002-2003, la piste n'a pas été entretenue, mais ça a généré une espèce de cohabitation difficile entre les skieurs de fond, les racketteurs et les marcheurs. Les skieurs de fond passaient de peine et de misère. Les gens à pied, ben là, eux autres, comme il y avait quelque chose de fait, ils défonçaient les pistes de ski de fond parce que ça allait mieux qu'à pied. Les gens en quête passaient à côté. Donc, vraiment, un peu la pagaille. Et au début de l'hiver, on est revenu vers la ville qui nous a refusé une deuxième fois et certains des citoyens sont allés devant les médias. Mais ça n'a rien changé. L'hiver 2003-2004, même enjeu de cohabitation difficile avec un ajout de problèmes, des motoneiges et des quads avaient commencé à circuler illégalement en faisant beaucoup de bruit. Et donc, il y avait et la cohabitation et les motoneiges. Alors, ça n'allait pas vraiment très bien, mais cet hiver-là, il ne s'est rien passé. C'est à l'automne 2004, en fait, qu'il y a un groupe de cyclistes dont je faisais alors partie, qui étaient des cyclistes qui se rencontraient sur une base régulière parce qu'on prenait tous la traverse pour aller travailler de Lévis à Québec en vélo tous les matins, tous les soirs. Et ce groupe de cyclistes-là, il y en a qui avaient commencé à travailler l'hiver, en fait, en vélo. Et puis, il y avait comme utilisé à l'occasion le fait que la piste avait été tapée l'hiver dernier par des skidous. C'est les skidous, en même temps, s'ils passaient les motoneiges, c'était désagréable pour le bruit, ça facilitait la circulation, même si c'était illégal. Alors, ce groupe-là s'est dit, on prend le taureau par les cornes. Il y a une coalition qui a été créée qui s'appelait la Piste l'hiver, où de ces cyclistes-là se sont joints à Kino Québec, l'organisme d'activité physique du gouvernement du Québec, à des organismes communautaires, à des gens d'affaires, etc. Donc, ça a fait que, après une rencontre avec les élus ont été convaincus, mais ont dit, là, l'hiver 2004-2005, c'est rapide un peu, faisons un projet pilote. Et le projet pilote a fait que ça a permis de régler deux ou trois des problèmes ou des irritants que les gens avaient, notamment le fait que la ville craignait pour les crottes de chiens. Elle craignait que les gens se promènent avec leurs chiens puis qu'ils ramassent pas leurs crottes et que ça génère un environnement pas très propre. Alors, cet hiver-là, dans le projet pilote, c'est les bénévoles, un peu comme les gens à l'autre endroit, au Cap Tourmente, qui s'étaient promenés avec leur pack-sac et leur raquette. Là, c'est les bénévoles qui sont allés mettre des sacs de crottes dans les bacs et des sacs un peu partout. Puis finalement, à la fin, ce projet pilote-là, ça a été tellement populaire que la ville s'est dit, on reprend ça en charge. Et à partir de l'hiver 2005, elle a repris en charge le damage de la piste. Elle a repris en charge la signalisation. Et depuis le 11 janvier 2006, l'inauguration officielle, ça fonctionne extraordinairement bien.
Alors, Michel, les deux exemples dont vous nous avez parlé montrent bien que les débuts des sentiers n'ont pas toujours été faciles, mais que maintenant, partout au Québec, ces pistes ont été organisées et sont extrêmement populaires, n'est-ce pas?
Tout à fait, Denis. Puis il y en a partout. Et c'est intéressant de noter que dans les deux cas dont on a parlé, c'est vraiment la dynamique citoyenne qui a été à l'origine de ça, comme c'est le cas très souvent. Mais au-delà de la dynamique citoyenne, c'est aussi important d'avoir une institution derrière qui permet, dans le fond, de pérenniser à long terme. Et quand les municipalités s'en vont, c'est sûr que ça va être là dans la durée. Mais au-delà de cette mise en place d'endroits, il y a aussi deux innovations techniques qui ont vraiment révolutionné, si on peut dire, la pratique de la marche l'hiver en la rendant plus facile et plus sécuritaire, les bâtons et les crampons.
Les bâtons et les crampons. Parlez-nous d'abord des bâtons.
Les bâtons, en fait, je réfère ici beaucoup aux bâtons télescopiques qui sont venus à la mode au tournant du millénaire, si on peut dire, à la fois chez les randonneurs d'été et à cause du fait que quand on a adopté les nouveaux genres de raquettes qui ont laissé dans l'oubli les raquettes en babiche traditionnelles, bois babiche attachées avec de la mèche à fanal, pour les nouvelles raquettes en métal et plastique. Cette nouvelle technique de raquette-là est venue avec le fait d'utiliser des bâtons. Alors, les bâtons ont donc déteint aussi sur la marche l'hiver sans raquette, que ce soit à la ville ou à la campagne. Et puis, ça rend beaucoup plus facile et beaucoup moins périlleux, si on peut dire, le fait de se promener. Parce que on sait que maintenant, sur les parcours de raquettes l'hiver qu'on trouve un peu partout, par exemple dans les centres de ski de fond ou des centres de plein air, comme je mentionnais tantôt pour mon affaire avec les Inuits, après peu de temps, c'est presque rendu inutile de marcher en raquette parce que c'est tout à fait bien tapé. Et que c'est les crampons, maintenant, notre deuxième innovation, qui a comme remplacé à beaucoup d'endroits le fait de se promener en raquette l'hiver dans un certain nombre de sentiers.
Alors, Michel, vous parlez à la blague de crampons de ville et de crampons des champs. Pourquoi?
C'est un peu en référence à la fable du rat de ville et du rat des champs, mais... En fait, avant le moment dont on se parle, là, au tournant du millénaire, il y avait des gens qui utilisaient des crampons quand ils marchaient, mais c'était surtout les alpinistes ou des gens qui marchaient sur la glace. Et c'était des crampons à très longues dents, dans le fond, utilisés sur la glace. Maintenant, ce que j'appelle nos crampons des champs, c'est comme le genre de crampons dont je vous mentionne, qu'on utilise en contexte de marche en nature. dont les dents sont assez longues, mais beaucoup moins longues et acérées que des dents pour la glace, et qui permettent de marcher sur des sentiers de raquettes éventuellement ou des sentiers d'hiver sur la neige durcie pour éviter de glisser dans les pentes et aider à monter et pour franchir sans glisser non plus les passages de glace là, qu'on peut avoir.
Mm-hmm, oui.
Alors, cette manière de marcher-là, finalement, est rendue très présente dans les endroits où on marche l'hiver. Puis même sur les pistes de raquettes, c'est souvent plus facile et plus fluide que marcher en raquette, mais en même temps assez inutilisable en ville parce que les dents sont trop longues.
Ah oui, oui, oui. Et les crampons de ville maintenant, justement?
Ben justement, cette idée de crampons-là, c'est comme aussi propagé en ville. Et on voit maintenant, depuis quelques années, dans le fond, un peu partout, dans les quincailleries, dans les magasins de plein air, des crampons pour la ville qui nous permettent de marcher sur des surfaces mixtes, glace, neige, asphalte, etc., dont les dents, effectivement, sont beaucoup plus courtes que les dents des crampons des champs, si on peut dire, et sont parfois même des ressorts. Donc, ça nous permet en ville aussi de circuler de manière plus sécuritaire. Un des problèmes souvent avec ces crampons-là, notamment pour les personnes âgées, c'est qu'ils ne sont pas faciles à mettre, ils ne sont pas faciles à enlever. Il faut se pencher.
Oui, oui.
Des fois, il y en a en caoutchouc, il faut tirer, c'est difficile. Puis la tendance est forte à ce moment-là de les garder quand on rentre dans les commerces ou autres. Et à ce moment-là, ça peut être assez risqué là, parce que ça nous permet de glisser si on ne fait pas attention. Puis c'est rendu tellement populaire que depuis quelques années, vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de bottes d'hiver maintenant qui ont un système de crampons intégré dans la semelle, qui se replie ou
se déplie
en fait, avec une espèce de petite clé, là.
Mm-hmm.
Donc, on voit que l'idée des crampons pour marcher en ville est devenue quand même assez populaire. Et c'est certain que le problème de l'entretien des trottoirs demeure à beaucoup d'endroits. Moi, je marche beaucoup à Québec, notamment, là, puis mettons que c'est pas toujours optimal là, pour circuler. Et vous probablement aussi à Montréal, là, avec les redoux, la glace et tout. Là. Mais malgré ça, on peut dire que l'hiver s'est rendu plus facile de marcher grâce à, notamment, ses crampons et ses bâtons.
Alors, si je comprends bien, Michel, marcher en ville ou dans la nature pour vaquer à ses occupations quotidiennes ou comme loisir est donc plus facile que jamais, même si à l'origine, la mise sur pied de sentiers de marche hivernale s'est souvent heurtée à de fortes résistances. Ça demeure quand même plus difficile qu'en été, mais c'est maintenant plus simple grâce à l'amélioration du matériel, des infrastructures et des vêtements. En conclusion, Michel, comment voyez-vous l'avenir de la marche en hiver?
Je pense, Denis, que comme en général, la pandémie a été un accélérateur de l'intérêt pour marcher, j'ai l'impression que ça va être une popularité qui a grandi et qui va continuer. C'est certain que nos changements climatiques avec les redoux et les épisodes de verglas en hiver ne facilitent pas nécessairement les choses, mais je pense que aussi... la raquette est devenue extrêmement populaire dans cette foulée-là, puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir à un autre moment donné.
Excellent, excellent. Alors, Michel, merci beaucoup pour cette fort intéressante chronique et j'espère à la prochaine, cher serein pèlerin.
Bien, à la prochaine, Denis, puis je vous laisse en même temps avec un petit truc que j'ai expérimenté en marchant l'hiver et le printemps.
Ah oui?
Pour vous et vos auditeurs. Qui, justement, met en utilisation les bâtons. Quand on est dans les redoux ou au printemps, très souvent, il y a des longues flaques d'eau le long des trottoirs. Et quand on marche, si les automobilistes ne sont pas attentifs, on est bénéficiaire d'une douche à peu de frais. Alors, pour éviter cette douche-là autant que possible, moi, j'ai trouvé que si on prend notre bâton télescopique, qu'on l'allonge assez long, qu'on marche très, très proche du bord de la rue et qu'on met le bâton dans la rue.
Dans la rue.
Dans la rue, à peut-être 3-4 pouces du trottoir. Ça n'a pas besoin d'être très loin du trottoir. Dans la flaque d'eau ou autre. Ça fait psychologiquement un signal pour les automobilistes qui ont tendance à vraiment se tasser et éviter de passer dans le trou d'eau pour nous arroser. Alors, je vous souhaite bon truc et de ne pas vous faire trop arroser en marchant l'hiver ou le printemps.
Alors, Michel, je vais de ce pas me chercher deux bâtons et je vous remercie beaucoup pour votre petit truc qui sera très utile alors que le printemps s'amorce. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Michel, et à la prochaine.
Ça m'a fait plaisir.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions qui y sont archivées. Aussi sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez également des descriptifs et références pour chaque épisode. Je tiens à remercier nos invités Louis Lefebvre et Michel O'Neill, notre serein pèlerin. Je remercie aussi à la technique notre souriant complice de toujours, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse sur cette pensée de Thomas More. Un pèlerin ne revient jamais chez lui sans un préjugé en moins et une idée en plus. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.